RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est reparti pour une semaine de grande gueule. Alain Marchal est dans le sud, les pieds dans l'eau, il profite de ses vacances. On le salue, on l'embrasse, il sera en pleine forme avec vous au mois d'août. Mais les grandes gueules, vous le savez, vous accompagnent en juillet au 32-16. On vous attend dès maintenant pour débattre de l'actualité avec autour de la table aujourd'hui un avocat, Charles Consigny. Salut Charles.
Bonjour à tous.
Le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy.
Bonjour, et moi je tiens à préciser que je ne salue pas Alain Marchal.
Voilà, c'est tout, c'est comme ça.
Pourquoi ? Parce qu'il est en vacances, c'est pas toi.
Je ne salue pas Alain Marchal.
Gratuit.
Voilà, c'est gratuit. T'es en vacances, bah reste.
Tu l'aimes pas, tu m'as dit.
Voilà, exactement.
Comme tu es très courageux, tu profites de son absence
pour
le dire.
Exactement, pour dire tout le mal que je pense de lui. Alain,
sûr,
si tu nous écoutes.
L'important, c'est de dire du mal des gens quand ils sont pas
exactement.
Là.
Exactement. Alain, si tu nous écoutes, je te déteste.
Alors, il y a une ambiance un peu salle de prof, parce qu'on a deux profs aujourd'hui. Et donc, il y a la professeure de français, Fatima Edbounoua. Bonjour, Fatima.
Bonjour. Bonjour, les grandes gueules de l'ombre. Bah, Olivier, tu es traumatisé par l'école, je pense.
Oui, exactement. Tu sais que c'était un traumatisme.
Mais ça se voit.
Ah oui. Une boîte à bac quand même, comme dans les Soudoués.
J'ai fini dans une boîte, c'était à peu près le niveau
avec Daniel Auteuil.
C'est deux, pas ce bac. Hein? J'avais des gens avec moi qui passaient pour la troisième ou la quatrième fois le bac.
C'est
à l'époque, c'était un peu plus dur. Enfin bon, bref.
J'en profite pour saluer tous les parents enfin libérés parce que leurs enfants ont obtenu ou non le brevet. Donc bravo ceux qui ont obtenu le brevet, le bac, le CFG. Il y a eu énormément d'examens et de concours en ce moment. Et parents, vous allez pouvoir retrouver le sommeil et arrêter de dire t'as pas quelque chose à réviser ? Va réviser.
Enfin, quoi que les parents se retrouvent avec leur gosse pendant deux mois et ils n'en peuvent plus déjà.
D'ailleurs, Alain Marchal a raté son brevet, je tiens à le préciser.
Mes chers grandes gueules, de quoi allons-nous parler ? Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cet important incendie d'une ampleur exceptionnelle, c'est ce que disent les pompiers, à Fontainebleau. On est à quelques kilomètres de Paris, en région parisienne. Ça perturbe la circulation sur les autoroutes, ça a bloqué les trains à l'arrivée au départ de la gare de Lyon. Est-ce qu'on va vers un été véritablement effrayant ?
C'est la première fois qu'on va avoir des canadairs sur la forêt de Fontainebleau. On a déjà eu l'occasion de faire des exercices avec eux, mais c'est la première fois qu'ils vont larguer. Effectivement, ils vont mettre mis en œuvre sur ce feu qui est particulièrement virulent et qui reste très complexe d'attaque puisque le relief est escarpé et donc difficile d'accès pour les piétons. Elle est plutôt réputée pour les sentiers de randonnée et les circuits d'escalade parce que justement la présence de rochers fait qu'elle est plutôt sympathique en balade. Néanmoins, pour des sapeurs-pompiers qui doivent tirer des tuyaux et circuler en véhicule, c'est absolument pas adapté, d'où le fait que ça soit particulièrement complexe, en plus avec des conditions climatiques défavorables qui s'annoncent pour cette journée.
Plus de 1000 hectares brûlés, 500 pompiers attendus dans la journée et donc deux canadairs en action. C'est la première fois qu'on voit deux canadairs au-dessus de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Toi, Charles, tu as été victime, entre guillemets, de ce qui s'est passé hier. Les trains bloqués entre la gare de Lyon et le Jura ou Marseille avec plusieurs heures de retard, c'est ça ?
Oui, alors oui, mais bon, moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, puisque j'ai eu un retard relativement mesuré. Vous voyez que la clim a eu raison, en revanche, de ma santé. Et je vis peut-être mes dernières heures ce matin.
Alors Charles est très affaibli par une crève. D'ailleurs, il a du mal à comprendre pourquoi on chope la crève.
Voilà, j'avoue que... Alors heureusement, Jean-Loup Bonamy... oui. Qui se dit philosophe, mais qui en réalité est médecin, m'a éclairé avant l'émission de sa lanterne sur la question.
Sur les différentes raisons qui expliquent
l'été, voilà. Donc, écoutez, ce que je peux vous dire dans ces dernières heures de vie, c'est qu'effectivement, il y a eu énormément de bordel hier. Moi, ce que je trouve désespérant, c'est que on ne prend pas la mesure des choses. Souvenez-vous qu'on a, il n'y a pas très longtemps de ça, les macronistes ont annulé la commande de deux canadairs. Au prétexte que c'était trop cher. Alors j'ai fait le calcul, sans vouloir être nunuche. Un Canadair, ça coûte 35 millions d'euros. Ouais. On dépense 650 milliards par an en dépenses sociales, c'est-à-dire sécurité sociale, chômage, retraite. Ça fait que pour un Canadair, il faut environ 28 minutes et 18 secondes de dépenses sociales. Mmh. Voilà. Toutes les demi-heures, on pourrait commander un nouveau Canadair si on n'engouffrait pas tout.
Donc là, il y a un problème d'anticipation.
La retraite à 60 ans, l'indemnisation de certains abus et le tout et n'importe quoi de la sécurité sociale. Je pense qu'il y a un problème, encore une fois, de choix budgétaire. Mmh. Et on est de nouveau face à ce problème puisque on n'arrive pas à faire face à des feux. Ça veut dire qu'on manque de moyens techniques.
Oui, ça, c'est vrai que l'annulation de ces deux Canadair par rapport à ce qui se passe cet été et ce qui se passera tous les étés, parce que ça va se répéter. Jean-Loup.
Celui qui les a annulés, nous ne citerons pas de nom, mais ne devrait pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Bon. Donc.
C'est Gabriel Jonathan,
Je ne sais pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les feux de forêt, on voit ça chaque année. Moi, je me souviens très bien des feux de 2022 dans les Landes. Et chaque année, on nous répète qu'on manque de moyens. Or là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec le réchauffement climatique et la canicule, les feux se développent par leur nombre, par leur ampleur et leur gravité, et même maintenant par leur situation géographique. Parce qu'avant, c'était plutôt cantonné dans le sud, et maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est aux portes de Paris. Donc, évidemment, qu'il va falloir prendre des mesures de prévention, d'anticipation, s'équiper massivement en Canadair. Les temps de commande sont assez longs, hein. Donc, c'est sûr que si en plus on annule les commandes, ça complique encore plus les choses. Et vraiment, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Charles. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut faire des choix. Si tu veux la retraite à 60 ans, faut pas t'étonner qu'on manque de Canadair. Voilà. Ouais. Tu ne peux pas tout avoir, en fait.
Après, il y a aussi la responsabilité des gens. Pardon, hein, l'un des feux, là, il y en a deux qui sont partis. Il y a eu deux départs de feu, si je m'abuse. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, avec un pompier, le lieutenant-colonel Franck Maillard, qui sera avec nous face au GG à 11h. Mais, l'un des incendies est parti du bord de l'autoroute. Donc, c'est sans doute un mégot.
9 fois sur 10.
Il y a aussi une responsabilité citoyenne. Moi, je veux bien qu'on dise, l'État n'a pas suffisamment de moyens, il fallait pas annuler les Canadair. Sûrement. Mais il y a aussi la responsabilité de chacun, parce que ça fait quand même des jours qu'on dit aux gens, prudence, pas de barbecue, faites attention à vos mégots, et on voit quand même les responsabilités de certains.
Alors, clairement, jeter un mégot par la fenêtre de sa voiture en 2026, c'est un acte criminel.
Ah oui.
Il n'y a aucune excuse.
On voit que tout est cramé partout.
Non, il n'y a aucune excuse. Voilà, on peut pas dire, on ne sait pas l'effet que ça va faire. Il n'y a aucune excuse. C'est un acte criminel et ça devrait être acté. Ça, c'est la première chose. Deuxième, Chirac, vous vous souvenez ce discours, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ça fait des années
qu'on le dit. Peut-être et nous que... regardons à côté.
Non, mais c'est ça. Mais peut-être que le fait que ça s'approche, c'est finalement quand c'est votre maison à vous, quand les parce que là, j'ai l'impression que les médias.
Là, c'est les maisons de Fontainebleau.
Voilà. Ouais. Mais les médias s'affolent un peu plus parce que c'est parisien. On a l'impression que quand on pouvait commenter de loin, lorsque c'était le sud, lorsque c'est l'Espagne, lorsque c'est un peu loin, on est à Paris et là, ça va effleurer quand la flamme va venir lécher la maison d'une personne importante. Là, ça va devenir une question importante. Je suis désolée, la question, elle est là depuis très longtemps. Temps et il est temps de se réveiller. D'autant plus que pour moi, regarder une forêt qui brûle, ça me fait exactement le même effet que lorsque c'était Notre-Dame. C'est-à-dire quand c'était Notre-Dame, tout le monde était ému, touché, légitimement. Mais quand c'est la forêt, c'est un bien inestimable. C'est l'or vert. Vous voyez, on a parlé de l'or noir. La forêt, c'est l'or vert. On voit l'importance des arbres, l'importance que ça a. C'est vital, finalement, les arbres. Donc on devrait prendre la mesure et ne pas attendre qu'on encore une fois, que ce soit Paris ou que ce soit la maison de personnes importantes.
Oui, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop, on en fait beaucoup, parce que c'est près de Paris?
On doit en faire de toute façon. Hein.
Oui, parce que c'est quand même exceptionnel. Hein. Il y a déjà eu des feux dans cette forêt de Fontainebleau, mais pas de cette ampleur à tel point qu'on envoie des Canadair et plus de 500 pompiers attendus dans la journée.
Oui, mais là, on est toujours dans l'inédit. Vous n'avez pas remarqué qu'on dit toujours, c'est la première fois. Oui. Il ne l'a jamais fait aussi.
Jamais eu trois canicules.
Vous voyez bien que ça se précipite et que ça s'accélère. Donc là, on va pas commenter le fait que ce soit une première fois. On va commenter le fait que maintenant, il faut agir et ne pas attendre. Enfin, c'est déjà trop tard. Mais au moins, avoir une action.
Mais oui, mais une action, déjà, si les gens faisaient gaffe.
Politique.
Moi, ça me tue de savoir qu'une fois de plus, c'est sans doute un mégot ou, à un moment donné, il y a une responsabilité. Charles, tu disais, oui, les moyens, etc. Oui, mais les conséquences de l'irresponsabilité de certains sont dingues.
Oui, c'est-à-dire que c'est des gens sur l'autoroute A6, où je sais pas la
question. Bah oui, c'était la 6.
En question, bon.
Bah oui, c'est la 6.
Et que tu jettes un mégot par la fenêtre, Tu n'imagines pas que ça va brûler 500 hectares derrière, pas forcément.
Bah aujourd'hui si quand même. En plus, on voit, regarde, tu traverses.
Je suis désolé, c'est tu traverses la France, tu n'as pas jeté par la fenêtre.
Oui.
Non mais si ça c'est criminel, et je suis tout à fait d'accord, annuler la commande de deux Canadair, c'est aussi criminel.
Ah oui.
Voilà, j'aimerais qu'on le dise clairement, c'est criminel.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, mais oui. Là, c'est un manque d'anticipation, c'est des choix qui n'ont pas de sens.
Oui, ben c'est comme les climatiseurs qu'on commande d'urgence à l'hôpital. Vous avez vu, alors ils en font beaucoup. Là, j'entendais la ministre de la Santé ce week-end nous expliquer que ça y est, ils arrivaient, etc. Mais enfin, donc c'est la démonstration même que rien n'est préparé. Et si tu es obligé au dernier moment de commander des climatiseurs pour essayer de soulager les malades à l'hôpital, c'est que tout ça, tu aurais pu le faire bien avant. D'ailleurs, mon avis,
c'est curieux. D'ailleurs,
ça doit nous coûter très cher de le faire dans l'urgence en plus.
Mais c'est l'inverse de la politique.
Je me demandais, tu vois, on se demandait à quoi servait le Haut Commissariat au Plan. Et on a le jeune Clément Beaune qui a fait le tour des plateaux pour expliquer qu'il était très utile. Mais alors, sur cette question quand même un tout petit peu importante du changement climatique, qu'est-ce qu'ils ont foutu ?
Et des incendies.
Qu'est-ce qu'ils ont recommandé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est précisément le rôle. Si alors il y a une fonction à ce Haut Commissariat, c'est ça quand même. Et je constate que ça a évidemment. C'est pas ça que ça sert. En réalité, ça sert à faire un déjeuner.
Clément Beaune, forcément.
Non, mais c'est un emploi fictif. Non, mais et Clément Beaune occupe un emploi fictif qui est censé apporter des réponses d'anticipation.
C'est pas Clément Beaune qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas de climatiseur.
Oui, non, mais c'est lui qui est responsable du fait qu'on n'est pas prêt.
Non, mais c'est les gouvernements, c'est les alters, la santé. C'est
moi de te le dire, mais.
Pardon, mais moi, il me trouve que j'étais à l'hôpital, dans un hôpital public ce week-end. Les soignants, ils se marrent. Ils disent, mais chaque année, on dit la même chose. Ouais. Chaque année, on se plaint qu'il n'y ait pas la clim. Alors, dans cet hôpital, il y a la clim, mais pas partout. Donc, dans des chambres, il n'y a pas la clim. Donc, il y a des gens qui étaient malades. Qui ont accouché, il faisait 35-38 degrés dans les chambres. Ils disent, mais de toute façon, chaque année, on dit la même chose. Chaque année, ils disent, ça serait bien climatiser.
Et chaque année, nous, on en parle.
Hein. Il ne se passera rien.
Mais simplement, si tu vois le coût financier que vont représenter ces feux de forêt, c'est quand même un coût exorbitant. En fait, ça coûte infiniment plus cher que les deux Canadair qu'on a annulés. Donc, c'est des économies de bout de chandelle et au final, ça te coûte beaucoup plus cher de ne pas avoir investi dans ces Canadair. Mais bon, encore une fois, comme tu veux la retraite à 60 ans, bah, c'est normal.
Manu est avec nous au 32-16. Bonjour Manu.
Salut, t'es comme vous allez bien, les Parisiens.
Oui, mais il fait plus chaud à Paris qu'en Corse en ce moment.
Bah, large, vous voyez, quand jamais j'irai habiter chez vous, c'est un cauchemar votre pays.
Bah, chez vous, la Corse, c'est devenu le nouveau Nord en fait.
C'est
et nous, maintenant, on est le nouveau Sud.
Tu sais, la Méditerranée, c'est l'hiver, elle nous protège du froid, et l'été, elle nous protège du chaud.
C'est vrai, Manu de Porto-Vec. Alors, Manu, vous avez été pompier volontaire pendant plusieurs saisons ?
Ouais, comme beaucoup de jeunes dans chaque village. On s'est toujours investi, on a toujours été tous présents quand il y avait des feux. Après, le feu, c'est la guerre, faut se battre, faut pas laisser avancer. Et ça me fait rire. J'avais balancé 2-3 petites phrases là-dessus, mais c'était passé un peu inaperçu. Je me rappelle quand ça s'était rapproché de la dune du Pilat et que Macron avait réagi. Il avait dit, oh là là, maintenant on va faire des choses, on va vous promettre des avions bombardés d'eau. Et la dune du Pilat, je crois que ça avait brûlé il y a bien 4-5 ans, non?
Ouais, 2022.
Ah, ouais.
C'est ça. Mais il s'en est passé des choses. On a trop d'avions maintenant. Hein. On sait plus où les mettre, hein, nos Canadair, nos bombardiers d'eau. On a un peu emmerdé, je crois. Hein. Franchement, le parking commence à être serré sur les aéroports. Hein. Non, on se fout de la gueule du monde. Je vais le dire une fois de plus. Charles a raison sur les moyens. Parce que quand on a un véhicule léger, bien équipé, en bord de route, avec des gardes, comme on les fait, avec de jeunes bénévoles, avec une partie des jeunes et une partie des expérimentés, des pompiers expérimentés, eh bien, une intervention, si elle est faite rapidement, on peut éteindre un feu qui démarre rapidement en bord de route, en quelques minutes. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important parce que même si on dit que ça va avoir un coût, 2-3 personnes dans un véhicule léger, un peu disséminé tout le long de certaines zones, ça coûtera toujours moins cher que de déclencher des Canadair, des machins, des trucs.
Oui, mais Manu, le problème, c'est qu'il y a plusieurs incendies en ce moment même en France.
Alors,
on n'en parle pas tout, on parle
le
pas
Finistère,
de tous ces incendies.
Hein.
Le problème, c'est que là, on fait venir des renforts de toute la France parce qu'il y a le feu de Fontainebleau qui est important. Donc, on déshabille d'autres départements. Et des pompiers volontaires, on en manque. On en parlait la semaine dernière. Visiblement, il y a moins de gens volontaires pour devenir pompiers. Donc, on va avoir un problème de main-d'œuvre aussi.
Bah, quelle considération on a pour ces gens de première ligne, comme on a su le dire à certaines époques. Quelle considération on a pour des gens qui, bien souvent, pour une poignée de figues, vont risquer leur peau. Parce que moi, je me suis retrouvé enfermé dans des flammes avec les portières fermées autour du camion. Et on s'est dit, bon, ben, c'est peut-être la dernière. Et tout, quelle considération on a pour ces héros? Ça, c'est les héros du quotidien. Zéro.
Zéro. Bah, si, on a de la considération. On a de la considération, mais.
Dans vos quartiers, je sais que dans certains de vos quartiers, on les accueille avec des machines à laver et des chiottes par les
Oui, c'est vrai. Parfois, les pompiers sont attaqués, ouais.
C'est sûr qu'ils n'ont pas trop envie d'y aller, là. Ça donne pas envie, hein.
Non.
Moi, je voulais vous dire, vous savez, j'ai arrêté, je partais pêcher un matin et on a arrêté, au vol, un type qui foutait le feu au bord de la route. On l'a chopé au moment où est-ce qu'il mettait, et ça a démarré. On l'a éteint avec les mains, avec la serviette et tout. On l'a attrapé. On l'a attaché. On a appelé les flics. Ils sont venus. Ils l'ont embarqué. Nous, on a failli se faire taper sur le doigt parce que, mon Dieu, on l'avait immobilisé. Et on a demandé des nouvelles. Vous savez ce qu'on nous a dit? Parce qu'il est passé au tribunal. On nous a dit, occupez-vous de vos oignons.
Voilà. Et vous savez pas ce qu'il a eu comme conséquence?
Mais zéro, il a rien eu, le mec. Il a rien eu. Moi, on l'a tué parce que c'était le fils, le frère d'un type qui était dans l'administration, enfin dans l'armée. On sait qu'il est passé à travers. On le sait qu'il est passé à travers.
Ouais. Merci Manu. Merci d'avoir appelé au 32-16.
Bon, je vous embrasse et force à tous les pompiers. Et attention, n'oubliez pas une chose, c'est que la plupart des Canadiens qui viennent sur Paris, des fois, ils vont au Portugal, ils vont en Espagne, ils vont partout, hein.
Ouais, et en Espagne, mais aussi de gros incendies en ce moment.
Et je fais une dédicace à Greg, c'est un ami qui est pilote de Canadair. Allez.
Merci Manu, merci. Dans un instant, Thierry. Alors Thierry, il nous appelle de Charente. Lui, il trouve quand même que le traitement médiatique est un peu étonnant parce qu'il y a eu un feu en Charente assez important. Personne n'en a parlé. Et dès que ça approche de Paris, là, tout le monde est dessus. Bah, on en parlera avec Thierry. Puis on va s'intéresser quand même à cette rave party dans le Morbihan. Parce qu'au moment où il y a ce risque incendie qui touche quasiment toute la France, une rave party a lieu dans le Morbihan. Elle est illégale. Laurent Nunez a dit, c'est pas bien. Mais je ne fais rien. Je ne peux pas intervenir.
Alain Marchal est à cette rave party.
Il va nous expliquer pourquoi le ministre de l'Intérieur. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ses arguments? A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Fatima Aïd-Bounoua, notre prof de français, l'avocat Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy, le prof de philo. On est sur cet immense incendie qui ravage en ce moment la forêt de Fontainebleau près de Paris, avec un feu qui n'est toujours pas fixé, qui devrait mobiliser 500 pompiers dans la journée. Et on s'interroge, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, parce qu'il est inédit, il est historique, mais il y a d'autres incendies ailleurs en France qui n'ont pas la même couverture médiatique, et ça interpelle Thierry. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour GG.
Pourquoi vous nous appelez de Charente? Pourquoi justement vous vouliez intervenir là-dessus?
Je pense que je rejoins un petit peu ce que disait tout à l'heure Fatima. Ça y est, on est à 60 km de Paris. Alors là, tous les médias sont concentrés sur ce feu, qui est certes dramatique. Mais si on prend par exemple le feu de... En Charente, c'est des petits feux d'une dizaine d'hectares qui ont été circonscrits. Donc il y en a eu une dizaine depuis le début du mois, ce qui est énorme déjà. Mais si je prends le cas de Die, dans la Drôme, c'est un feu qui a fait plus de 4000 hectares. Et je trouve que la couverture médiatique n'est pas énorme sur ce feu, par exemple. Parce que c'est reculé, c'est au prix du Vercors. Les Pyrénées-Orientales, c'est pareil, c'est plus de 4000 hectares. Je crois que ça représente les feux entre...
On en a beaucoup parlé dans les Pyrénées-Orientales.
Hein. Oui, voilà. Vous venez confirmer ce que je viens de dire. Vous en avez beaucoup parlé dans les Pyrénées-Orientales.
Tous les feux n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des feux effectivement qui provoquent par exemple l'évacuation de nombreuses habitations. Il y a des feux qui sont historiques.
Vous croyez quoi que celui du Vercors il n'est pas historique? Celui de Die, vous croyez qu'il n'y a pas des habitations qui ont été ravagées?
Ce qui est frappant.
Ça s'est jamais présenté dans le Vercors.
Je suis d'accord, il y a sans doute un prisme parisien, mais néanmoins, qu'il y ait autant de flammes en forêt Fontainebleau, ça témoigne aussi d'un changement d'époque. Aujourd'hui, plus aucune région n'est épargnée, c'est ça que ça veut dire.
Comme la Bretagne qui prend en feu.
Exactement.
Ça fait, pour que les gens se rendent compte, les feux de forêt qu'il y a eu entre la Drôme et les Pyrénées-Orientales à aujourd'hui, ça représente 14 000 terrains de foot. Mmh. 14 000 terrains de foot.
Oui, c'est dingue.
Mais Olivier reconnaît quand même, pour aller dans le sens de Thierry, qu'il y a de nombreux sujets, au-delà des feux.
Oui.
Que lorsque des Parisiens et notamment médiatiquement, que le traitement médiatique des sujets ne dépend plus de l'importance du sujet, mais du fait qu'un éditorialiste ou qu'un journaliste soit concerné.
De plus en plus, les rédactions sont à Paris.
Regarde sur l'école, sur la santé, sur les cancers. Il suffit qu'un journaliste perde sa mère ou ait un cancer, écrive un livre à ce sujet, et tout d'un coup, le sujet mérite d'être vu. Pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui souffrent de ces problèmes, qui hurlent dans le désert. Ouais, regarde sur l'école. On va parler de l'école, on va parler de l'hôpital. On va dire, il n'y a pas de moyens. Les infirmières, elles sont là. Elles sont en train de se dire, on fait de la maltraitance. C'est quand même des mots forts. On maltraite les patients. On n'a pas les moyens de faire notre boulot. On est en burn-out.
Elle crie.
Et il suffit qu'il y ait une personne, un éditorialiste, qui va voir sa mère mourir à l'hôpital, et c'est grave pour lui. À ce moment-là, ça devient un sujet. Et à ce moment-là, on nous dit même, ah ben oui, mais on pensait pas que c'était si important. Vous auriez dû hurler plus fort. Mais on fait que hurler. Les gens sont fatigués d'hurler, puisqu'il n'y a pas l'écho médiatique. Donc là, bon, on parle de ce feu. Mais ça, ce que dit Thierry va au-delà de ce feu. Ça parle vraiment du traitement médiatique, et on a un problème. Je suis désolée. En plus, vraiment, ça en continue. Il y aurait le moyen de parler de plus de choses.
Allô? En plus, vous citez Paris, mais on est quand même, je suis désolé, on est quand même en région parisienne, on est à 60 km de Paris. Moi, quand je parle de chez moi, je parle pas de Bordeaux. Alors que je suis pas loin de chez moi, Bordeaux. Je suis en région bordelaise, il faut arrêter. C'est pas parce qu'à Paris, ils vont commencer à avoir les narines qui sentent la fumée, qui est à 60 km, que c'est Paris qui brûle. Il faut quand même un peu de retenue, et je pense, comme disait, merci Fatima, voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que elle relaye exactement ce que je pense, et je pense que beaucoup de citoyens pensent également. Attention, c'est pas de l'anti-parisien, c'est pas du tout ça.
C'est plus un rappel à l'ordre des médias qui ont un prisme pro-parisien.
C'est ça, et dire on existe.
De Paris, quoi. Il y a de la France au-delà de la troisième couronne parisienne.
Bien sûr. Merci Thierry d'avoir appelé au 3216. Merci à vous. Et puis, il y a ce qui se passe en ce moment dans le Morbihan. Dans le Morbihan, il y a 2000 personnes qui participent depuis samedi à une rave party illégale, comme d'habitude, sur la commune de Forges-de-Lannouët. Ce rassemblement se poursuit malgré la vigilance rouge canicule en vigueur dans ce département et un risque très sévère de feux de forêt. Alors pourquoi les forces de l'ordre n'interviennent pas? Écoutez l'explication du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Il n'y aura pas d'intervention. Pourquoi? Parce que ce sont des gens.
Parce que finalement,
je vais vous expliquer.
Prime à l'illégalité?
Non, c'est pas la prime à l'illégalité. Ces personnes, s'il y a une intervention, ce sera des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. C'est toujours comme ça dans les rêves parties quand nous intervenons. Donc il y a un risque qui est trop important. On créerait un trouble plus grand que celui qu'on veut contenir, puisque les tirs de mortier pourraient déclencher des incendies.
On se met dans l'ambiance. Alors, est-ce que vous comprenez l'explication Laurent Nunez? Il n'intervient pas parce qu'il pense que les conséquences seront pires, c'est-à-dire qu'il y aurait l'utilisation de tirs de mortier qui pourraient déclencher des incendies. Donc il faut laisser faire. Alors quand même, les autorités ont mis en place, disent-elles, un dispositif qui permette de limiter l'arrivée de nouveaux teufeurs. Donc il n'y en aura pas plus. On nous promet qu'il n'y en aura pas plus que les 2000 déjà présents, mais ça mobilise quand même plusieurs escadrons de gendarmerie sur place. Jean-Loup, est-ce que l'explication, elle est bonne ou pas de Laurent Nunez? Il a raison.
Ah ouais, je trouve ça excellent. Cette démission des pouvoirs publics, c'est vraiment délicieux. Je bois du petit lait. Et c'est-à-dire que, voilà. Déjà, c'est un problème qui n'est absolument pas nouveau. Je me souviens justement tout à l'heure, tu citais Chirac. Jacques Chirac, quand il était président début des années 2000, je crois que c'était vers 2003-2004, parlait déjà de ce problème qu'on appelait à l'époque les rêves parties ou les free parties. Donc, je me souviens très bien de ça. Et ça fait plus de 20 ans, et donc plus de 20 ans que on ne fait rien. Et même là, ça s'aggrave puisque le ministre vient reconnaître publiquement qu'en fait, oui, c'est illégal, mais il ne fera rien. Et moi, ce qui m'amuse le plus, c'est que dans la France d'Emmanuel Macron, on donne des leçons au monde entier. On veut tenir tête à la Russie de Poutine. On veut tenir tête à Donald Trump. Mais la vérité, c'est que l'État français, sur son propre sol, se fait mettre en PLS par un gamin avec un pistolet à eau dans le 10e arrondissement de Paris et par 2000 toxicos avec des chiens. Parce que c'est ça la vérité.
Toxicos, non.
Si, c'est un lieu de trafic de drogue. C'est un lieu de consommation.
Oui,
c'est un lieu.
Tous toxiques.
Il n'y aurait pas de drogue, il n'y aurait pas cet événement. C'est un lieu de consommation massive de drogue, notamment d'ecstasy et de LSD.
Alors on annonce
que des toxicos avec des chiens, c'est tout.
Que des PV ont été dressés quand même. On dresse des
PV. Je tremble.
Voilà. Fatima Edbounoua, on a raison de laisser faire finalement. On a peur que les conséquences d'une intervention créent quelque chose de chaotique.
Symboliquement, c'est désastreux. symboliquement, là, on a... symboliquement, c'est désastreux. Mais au fond, il a raison. Parce que tout le monde va lui tomber dessus. Imaginez, ils interviennent et effectivement, ça crée quelque chose.
La Bretagne est
à cause de l'intervention, tout le monde va lui tomber dessus. Donc, il est coincé, en fait, Nunez. Ils sont complètement coincés parce que finalement, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Ouais,
c'est un drôle le message que tu envoies parce que officiellement, les rassemblements de ce type sont interdits jusqu'au 31 août. Je cite, c'est ce qu'a dit la préfecture, dans un environnement sec, le moindre départ de feu peut avoir des conséquences dramatiques pour les personnes, les biens, les espaces naturels. Parce que le fait de laisser les 2000, t'es pas à l'abri qu'un incendie parte parce qu'un mégot,
tu vois. Après, ils sont pleinement responsables. Ça veut dire que dans ce contexte-là, moi, pour moi, on jette. Bah, ils sont pleinement responsables. Oui, quelque chose.
Ça n'empêchera pas l'incendie.
Oui.
En tout cas, il faut saisir le matériel déjà.
Sans vouloir être rabat-joie, réactionnaire et plus vieux que mon âge, je constate que la France est toujours autant débordée de travail. Hein, ça, alors là,
c'est le week-end du 14 juillet.
On est début juillet. Je veux dire, tous les cafés sont pleins. Les berges de Seine sont remplies à craquer. Les trains sont remplis à craquer. Non, c'est pas un week-end férié, c'est férié demain.
Bah, si tu déposes ton lundi, t'as quatre jours.
Voilà, contre les ponts. Je vais légiférer pour interdire les ponts. Je vais interdire aux salariés
ça sera pas très populaire.
De prendre un jour de congé entre le week-end et le jour férié.
Je suis pas sûr que tu seras élu.
Je veux des gens sur le pont et non pas qui prennent leur pont, tu vois. Bon, et sinon, je pense que Jean-Loup a... Ah, non, mais c'est quand même amusant de voir. Tu sais, les Américains, par exemple, se marrent parce qu'ils disent, mais alors c'est pas que la France, mais ils remarquent qu'en Europe, tous les espaces de loisirs sont remplis en pleine semaine, en plein après-midi. Les cafés, les piscines, les plages, les bars. Et ils disent, mais c'est dingue, comment font les Européens? Bon, ils connaissent pas le concept. Bon, je veux pas être trop réac. Mais sinon, Jean-Loup a raison. C'est 2000 drogués.
Non, c'est pas, ils sont pas drogués.
Mais si.
Ils viennent faire la fête.
Après, il faut bien que jeunesse se passe.
Non, mais c'est plus le message que Laurent Nunez envoie. C'est assez curieux parce que à la fois il y a des messages d'interdiction.
Oui, mais au moins,
ne le faites pas. Et quand on le fait, bah, finalement, on va continuer à le faire parce qu'on peut pas intervenir.
Je trouve que ce Nunez au moins dit la vérité. Tu vois?
Oui.
Bah, non, mais écoute, il n'est pas là à nous inventer je ne sais quoi. Il dit, écoutez, ce serait pire d'intervenir, donc on intervient
pas.
C'est
vrai. Oui.
Au moins, il nous raconte pas de carabistouilles.
Mais les conséquences sur le long terme peuvent être compliquées parce que si je fais le parallèle avec une classe, il n'y a rien de pire dans une classe qu'essayer d'être ferme, tu as des règles pour tout le monde, et si ces règles qui sont valables pour tout le monde ne sont pas valables pour deux, trois, très vite ça déborde, parce que les autres vont avoir un sentiment d'injustice.
Bon, enfin, là,
vont
dire, non, mais on est en train d'interdire faire une répartie dans le Morbihan.
Non mais c'est pas ça, mais il y a plein de fêtes qui ne vont pas avoir lieu.
Tu sais qu'on annule tous les feux d'artifice,
alors que ces cadrés sont interdits, et d'un autre côté, on va laisser quelque chose d'illégal de l'autre côté. Donc du point de vue du symbole, on est en train de marcher sur la tête quand même. Je ne tiens pas, moi, au feu d'artifice, j'aime pas les bruits soudains.
En ce moment, il ne faut pas tirer des feux d'artifice.
C'est un cauchemar pour moi.
Décrit Fatima, c'est l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire, le pays est à la fois anarchique et tyrannique. Il est tyrannique avec les gens ordinaires.
Et injuste, du coup.
Voilà, et injuste. Et comme le disait très bien Fatima, on interdit des feux d'artifice qui ne présentent aucun danger.
Et qui sont réalisés par des professionnels qui sont cadrés.
Et par contre, on est faible avec les délinquants qui sont des irresponsables, qui risquent de provoquer, il va y avoir plein d'overdoses et ils risquent de provoquer également des feux, des incendies. Et là, en fait, on laisse faire, on se couche. Voilà,
oui,
c'est ça.
T'envoies un message à la population
Mais oui.
Qui est privée, finalement, de feux d'artifice professionnels cadrés.
Parce que ce sont des gens.
Et par ailleurs 2000 teufeurs dans le Morbihan, qui sont finalement autorisés à
défoncer au LSD. Là, il n'y a pas de souci, eux, ils ont le droit.
Après, il y a une responsabilité individuelle aussi. Okay. Ces jeunes aussi peuvent se dire, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire la fête dans un département en canicule rouge.
C'est des jeunes à qui il reste 3 neurones. Qui votent France Insoumise, qui sont déscolarisés, qui vivent. Mais attends, mais qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis?
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce descriptif sociologique.
Mais bien sûr.
Ça, c'est de la sociologie. C'est autre chose que les maîtres de conf de sociaux de Paris 8. Ouais, voilà de la vraie sociologie.
Les Shadocks, je ne vais même pas commenter ça.
Bon, voilà un portrait de type,
voilà
du mec qui va en
sujet
rêve,
traité,
quoi.
Olivier. Est-ce qu'on a un autre sujet?
Je te propose de partir dans le sujet.
On te l'a traité.
Je te propose de partir dans le Finistère.
Comme il faut.
Retrouver Jérôme, on n'est pas loin du Morbihan. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour. Laurent.
Que pensez-vous de... Vous êtes passé à côté, c'est ça?
Ah, moi, j'ai passé le week-end juste à côté, à 5 km.
Alors, racontez-nous.
Alors, déjà, j'ai passé une nuit d'enfer le samedi soir. Donc, faut dire qu'ils sont arrivés vendredi soir.
Ouais.
Et tout le week-end, journée, nuit, ça a été l'enfer.
Ouais, c'est la musique non-stop.
C'était un bruit et c'est toujours le même rythme en plus. Donc
c'est-à-dire qu'en plus, comme il fait chaud et qu'on dort à la fenêtre ouverte, j'imagine, du côté du Finistère, c'est pas possible avec le bruit, quoi.
Ah bah là, en plus, c'était une nuit tropicale quand même. Et, ouais. Et toute la nuit, ça a été les bruits de basse. Toute la nuit.
Ça vous a rappelé votre métier, vous qui êtes maçon?
Ouais, ça m'a rappelé un peu.
Hein, c'est métier, le marteau-piqueur, le bom-bom-bom-bom.
Exactement. Ouais.
Mais est-ce que
mais
vous comprenez...
Plus, 24 sur 24, quoi.
Est-ce que vous comprenez l'argument du ministre de l'Intérieur qui dit que ça serait pire si on intervenait?
Alors, je comprends cet argument-là, mais ils auraient pu intervenir du début. Parce qu'il faut voir l'organisation, quand même. Il y a des échafaudages qui sont montés. Ah oui. Il y a tout un système et ça se voit, ils sont au courant.
Donc avant que ça commence,
est-ce que vous les avez aperçus physiquement, cette tribu gauloise?
Ah oui, mais je les ai aperçus tout le week-end.
Alors, comment les décririez-vous?
On a fait même nos courses à Leclerc et même sur le parking du Leclerc, il y avait des jeunes qui voulaient qu'on les prenne en stop pour les rapprocher du lieu.
Mais à quoi qu'ils ressemblent alors?
Sur tout le trajet, on les a vus à pied, ils venaient de toute la France, on en a vu qui venaient de Paris et ça faisait 3 heures qu'ils marchaient. On en a vu tout le week-end en fait, et ils passaient à travers la forêt, ils contournaient tout le système de gendarmerie en fait.
Et c'est quel genre de jeunes? Est-ce qu'ils portent des dreadlocks? Est-ce qu'ils sont accompagnés de chiens? Alors, est-ce que les femmes ont les cheveux rouges ou bleus?
Certains, la plupart, on les reconnaît. Ils ont la tenue des teufeurs.
Voilà.
Il y avait des jeunes, ils étaient tout à fait sympathiques. Hein, il y avait pas de soucis. Hein.
Alors simplement. Moi, j'espère que la protection civile, le SAMU, les hôpitaux ne prendront pas en charge les overdoses. Tu participes à un événement illégal qui risque de déclencher des feux de forêt. Tu ne veux pas des services publics quand c'est la gendarmerie. Et ben pas de services publics quand t'as ton overdose. C'est aussi simple que ça. Tu te débrouilles tout seul.
Il y a une obligation de soins quand même.
Et ben c'est bien dommage. Moi je suis pour la supprimer.
On devrait la faire payer.
Oui. De toute façon, sur place, il y a en général la sécurité civile, ouais. Enfin, il y a moyen de soigner.
Il y a la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui était présente.
Oui, c'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que c'est illégal, mais on a l'impression que tout est bien encadré, tout est préparé, à la limite, tant mieux, parce que dans ce cas-là, s'il y a un problème, ils peuvent intervenir, mais c'est tout le paradoxe,
tout à fait. La Croix-Rouge était présente, apparemment, il y a eu 400 interventions de la Croix-Rouge.
400. Mais il fait tellement chaud, en plus.
Il y avait un agriculteur qui a été réquisitionné avec ses fosses à lisier remplies d'eau, au cas où. Et puis le système de gendarmerie, ils étaient à côté, parce que de toute façon, je vous dis, ils étaient tous en train de sortir de la forêt par grappe, mais à travers bois. Et le plus où on a vu de gendarmes sur la route, c'est quand le préfet s'est déplacé dans la journée hier.
Bien sûr. Merci Jérémy pour ce témoignage. Voilà, reporter Jérémy.
Mais arrête de nous dire s'ils ont des malaises à cause de la chaleur. Ils ont des malaises à cause de l'héroïne et du LSD, quoi. Oh.
Alors, on n'a pas posé la question.
On ne les comprend pas.
Bon, en tout cas, la question était simple, c'est est-ce que c'est criminel ou pas. Donc, comme la réponse, on se doutait que...
C'était un oui à 85%.
Voilà. On n'a même pas posé la question, tellement on était sûr de la réponse. Allez, dans un instant, le Joseph, Anaïs Sens nous rejoint. Restez avec nous sur RMC, RMC Story, les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
RMC, la radio, RMC Story, la télé autour de la table. Deux profs pour démarrer la semaine. C'est les vacances scolaires, mais pas pour nous. Voilà les profs. Jean-Loup Bonamy, le prof de philo.
On travaille tout le temps,
nous. Fatima Edbounoua, la prof de français. Et un avocat, Charles Consigny. Anaïs Sens nous a rejoint.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Ça fait le tour des réseaux sociaux hein, depuis ce week-end. Le clash entre Sandrine Rousseau et des agriculteurs. Est-ce qu'on s'en fout, Fatima?
Non, on s'y intéresse.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout à moitié quand même.
L'élu écologiste était invité samedi dans le Lot-et-Garonne au Festival international du journalisme où l'attendait donc une délégation de chasseurs et de paysans autour d'un barbecue échange électrique. Écoutez.
Vous voulez que je vous dise que pour moi, la rentabilité, ça n'est pas le sujet, c'est votre revenu.
Vous n'êtes pas agricultrice, vous savez mieux que nous.
Non, je suis économiste. Et que votre revenu.
Ah oui,
je ne suis pas agricultrice, non, je suis économiste.
Ah ouais, c'est Fatima. Vraiment, c'est l'illustration de ce qu'il ne faut surtout pas faire, tout ce qu'on déteste des politiques. Parce que la personne en face dit, vous n'êtes pas agricultrice, j'ai une légitimité, je suis, entendez-nous, on est sur le terrain. Et à la place de dire, d'être à l'écoute aussi, parce qu'en plus, elle veut parler, elle aussi, de revenus. Donc je pense, en plus, elle voulait peut-être dire quelque chose d'intéressant, Sandrine Rousseau. Mais sa façon de faire, en disant, je suis économiste, et ça donne l'impression, je suis le sachant, l'argument d'autorité, tais-toi, tu ne sais pas, tu ne sais même pas ce que tu vis, c'est tout ce qu'on déteste. Parce que vraiment, le mépris de classe qu'on vit, le mépris de terrain qu'on vit, comment les politiques, à chaque fois qu'on essaye d'expliquer ce qui se passe sur le terrain et on nous fait croire que parce qu'on sait, parce qu'il y a des études ou des statistiques et on nous traite comme des numéros, c'est insupportable pour les gens. Et là, cette scène, elle vient illustrer ça. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'elle voulait dire quelque chose d'intéressant. Donc, mais ah bon, en termes de communication, c'est une catastrophe.
Jean-Loup.
En fait, j'ai changé d'avis, je m'en fous.
Ah non.
Ah bon.
Non, bah non, mais c'est le droit, il a le droit de changer d'avis. C'est possible.
C'est
ça, le
monde peut changer d'avis. Ah non.
Charles.
Non, écoutez, moi, je ne déteste pas Sandrine Rousseau, que je trouve.
Ça, c'est curieux.
Non, mais que je trouve.
D'ailleurs, vous avez été en couple, d'ailleurs.
Assez volontaire dans son engagement, disons. Que les écologistes discutent avec les agriculteurs, ça me paraît pas extravagant non plus, dans la mesure où ils ont beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à se reprocher les uns aux autres. En général, c'est un peu contradictif,
c'est pas l'amour fou,
mais voilà, les agriculteurs n'ont pas la passion des écologistes. C'est très intéressant. Moi, je pense que les écologistes français desservent pas mal la cause qu'ils veulent défendre. Je pense que Madame Tondelier fait beaucoup de mal en réalité à l'écologie. Madame Rousseau aussi.
Ah bon, bah je crois que tu l'aimais bien.
Non, mais je l'aime bien quand même.
Ah bon.
Mais je pense que elles sont et ils sont de façon générale tellement, si tu veux, je vois, tout le monde voit l'urgence climatique, tout le monde est d'accord, etc. Mais en même temps, quand tu pousses les gens qui se disent écolos, qui sont souvent des gens de gauche, au bout de leur raisonnement, je sais, moi je vois, j'en ai dans ma propre famille, au bout de leur truc, il y a quand même à la fin le goulag, hein. C'est quand même ça, la fin de leur raisonnement, c'est qu'à la fin, ils s'interdisent tout. C'est ça l'objectif final.
Mais là donc, c'est la façon de faire, c'est-à-dire que...
Elle dit
c'est...
qu'elle est économiste, elle a raison de le dire, moi je suis archevêque de Canterbury.
Non mais c'est bizarre parce qu'à la fois c'est plutôt courageux d'aller au devant de gens qui lui sont hostiles parce que c'est pas l'amour fou entre Sandrine
Rousseau et les agriculteurs.
Elle a accepté
d'échanger aussi.
Elle accepte d'échanger, mais c'est vrai que le seul argument qu'elle peut rétablir,
elle dirait pas qu'elle accepte d'échanger.
Non mais il y a une femme qui lui dit je suis agricultrice et au lieu de lui dire bah oui effectivement c'est pour ça que je viens vous voir parce que racontez-nous un peu ce que vous vivez, on lui répond, elle répond mais moi je suis économiste, comme si d'ailleurs c'était supérieur au fait que d'être agriculteur. C'est même méprisant. Moi, je trouve qu'il y a un mépris de classe. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle nous dit quand elle dit je suis économiste? C'est en gros, je sais mieux que vous. En quoi, je suis désolé, en quoi une prof à l'université, parce qu'elle est prof à l'université, sait mieux qu'un agriculteur ou une agricultrice de ce qu'il faut faire pour la terre, pour s'adapter aux chaleurs. Enfin, c'est ça qui m'a choqué.
Mais
moi,
c'est pour ça que cet échange circule autant. Je pense que les gens ont entendu ce que tu dis. Ils ont entendu du mépris de classe.
Oui, il y a du mépris de classe.
Et un problème de communication énorme.
C'est la Parisienne qui débarque, qui dit c'est en ça. Gros, je suis
et
économiste.
Qui dit je sais mieux que toi ce que tu vis. Donc il y a un décalage.
Non, là je vous trouve trop. Faut arrêter.
En tout cas, c'est perçu comme ça.
Faut arrêter d'accabler ces pauvres hommes politiques et femmes politiques. Ils peuvent rien dire. Ils vont. Tu sais, ça c'est quand même dingue, tu vois. Le nombre de Français qui sont là,
dire, mais pas des mais choses méprisantes.
Le cul
aussi,
dans leur canapé.
Non, mais on a fait que les
le
entendre.
Le cul dans leur transat, au bord de leur piscine. Ah, t'as vu, Sandrine Rousseau, elle a été méprisante. Mais toi, vas-y, va les voir les agriculteurs. Va leur parler, va échanger avec eux.
Bravo,
paye
Sandrine.
Plus cher. paye plus cher ton lait, tes pâtes, ton beurre et arrête de tout commenter.
Je suis désolée.
Mais, sauf que c'est trop facile. Moi, franchement, ça devient difficile de faire de la politique.
Déjà, pour faire de la politique, il faut écouter le terrain. Venir sans écouter le terrain, en méprisant le terrain, on les écoute. Pendant très longtemps, les gens ont respecté, ont tellement respecté,
on
sacralisé la voix politique, on sacralisé le moment. Moi, je viens vraiment des familles, et justement, des familles d'un père ouvrier où l'instituteur, le médecin, le maire du village, on les respecte, c'est vraiment les sachants. Mais pourquoi les gens maintenant commencent à se poser des questions? Parce qu'ils ont vu que certains ne sont pas légitimes. On voit que certains prennent des décisions à côté de la plaque. Mmh. On voit qu'ils ne voient pas ce qu'on va vivre. Vous voyez? Moi, et puis, l'intelligence d'un diplôme ne dit pas l'intelligence fonctionnelle. J'ai fait une classe prépa. Je peux vous assurer qu'en face de ma chambre, j'avais un élève qui était brillantissime.
Un maths sup.
Non. Mais une fois, on devait déménager les meubles de sa chambre. Il était comme ça, incapable d'avoir cette pensée de terrain. Donc, il y a différentes formes d'intelligence. Donc, l'intelligence en costume, moi, je la respecte, mais l'intelligence du terrain, de ta matière, de tout ça, de la femme de ménage qui va savoir exactement, attention, mais ça sera difficile à nettoyer après, mais je fais plus confiance à ma mère qu'à n'importe quelle personne qui va te faire un truc statistique et théorique. Je suis désolée.
Bon, les GG. Georges Clooney devient l'une des 500 plus grandes fortunes de France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup?
On s'en fout. What else?
What else?
Fatima.
Je suis désolée, je m'y intéresse pas spécialement.
Non, moi, Charles. Je m'en fous pas du tout.
Ah, voilà. Bon, c'est le fameux classement annuel du magazine Challenge avec donc ses 250 millions de dollars de fortune professionnelle. L'acteur américain naturalisé français entre ainsi dans ce palmarès à la 500e place, dernière place donc de ce classement. Bravo Georges, merci Georges, Charles.
Oui, absolument. Moi, j'apprécie beaucoup le jeune Clooney.
63 ans, je crois.
J'ai observé qu'il faisait l'éloge de notre pays, d'ailleurs y compris de nos trains. Les gens de la SNCF doivent être contents. Ils trouvent que les trains français sont formidables. Et je suis heureux que nous comptions comme compatriotes désormais. Mr. Clooney.
Moi, je m'interrogeais, est-ce qu'on l'a bien informé du niveau d'imposition en France? Est-ce qu'on a expliqué à Georges Clooney qu'il allait se faire massacrer fiscalement?
C'est-à-dire que là, si
prochaine
tu veux,
déclaration, là, à mon avis, il s'en va.
Il est dans le classement, mais l'année prochaine, il sera dans le classement des Français les plus pauvres.
Oui,
parce qu'il aura payé ses impôts.
Non, mais
il va peut-être pas rester longtemps.
Non, je pense qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait.
Fatima, t'as dit qu'on foutait, mais bon.
Non, juste pour ajouter, il y a Eva Longoria aussi.
Ah bon?
Qui parle en bien de la France à longueur
de
temps.
Elle a fait une sorte de tour de France là récemment.
C'est très agréable, effectivement, quand tu l'entends. Parler de la France, c'est agréable, ça me fait plaisir.
Non, mais voilà. Nous, on dénigre toujours notre propre pays, alors ça fait du bien quand
des étrangers.
Je pense que la fortune de Georges Clooney va lui permettre d'acheter, s'il y consacre toute sa fortune, d'acheter un deux pièces à Paris. Je pense que s'il dépense toute sa fortune, il peut peut-être avoir un deux pièces à Pantin.
Non, il a une maison dans le sud.
Il est à côté de mais à Paris, il aura un deux pièces à Pantin.
Une maison modeste, probablement.
Oui.
Oui, mais Georges Clooney, il va souvent en Italie également. C'est un amoureux de l'Europe. Georges Clooney, il est vraiment très européen. Est-ce qu'il a la clim, Georges Clooney? Il va découvrir deux choses. En France, il n'y a pas la clim.
Il est formidable. Sa femme est un peu agaçante.
Et qu'il y a beaucoup d'un
à parler de Georges Clooney.
Deux qui va se faire matraquer fiscalement.
Non, elle est magnifique.
Tiens, la raconte, avocate internationale.
Bah non, c'est une femme engagée.
T'es jaloux.
À mon avis,
parce que t'es pas internationale.
Elle a des gros dossiers.
Moi, je suis avocat international, mais.
Ah bon, bah voilà.
Qu'elle se calme une seconde.
Je veux qu'on te présente comme avocat.
Elle peut pas à la fois sortir avec Clooney, être jeune et belle. Être avocate internationale.
J'aime bien.
Qu'elle sent mauvais ou je sais pas quoi, mais qu'elle a des défauts quand même. Des souffrances en tout cas. J'espère qu'elle souffre quand même un peu.
Non, moi j'adore.
Bon, mais en tout cas, merci Georges Clooney d'avoir accepté de venir en France et de vivre en France et d'aimer notre beau pays. Dans un instant, mes chères grandes gueules, on va s'intéresser au meurtrier présumé de cet ado de 15 ans qui a été tué à coups de pied et de poing. C'était en 2024 à la sortie d'un collège. Eh bien, ces deux mineurs ont été libérés à cause d'un vide juridique. Un vide juridique qui aurait pu être comblé. Le gouvernement avait un an pour combler ce vide. Il ne l'a pas fait. On en avait parlé d'ailleurs dans les grandes gueules. Ben voilà la conséquence directe de l'inaction du politique. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.